Merci Émilie, comme tous les jours, deux parties dans la grande table qui résonnent avec l'actualité culturelle. Aujourd'hui, une visite de la très belle exposition Pierre Ardouvin au Macval. Puis vers 13h25, la session musicale sera signée Manolo Redondo en direct dans le studio. Et puis nous tirerons le portrait du danseur et chorégraphe Pierre Rigal. Mais tout de suite, il est 12h30 et c'est l'heure du journal présenté par Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Lucille, bonjour à tous. Les deux auteurs de l'attaque de l'église catholique de Saint-Étienne du Rouvray près de Rouen sont maintenant identifiés, 19 ans tous les deux, fichés S, autrement dit sous surveillance. Nous verrons plus précisément ce que cela veut dire avec Willy Moreau. La classe politique à droite et à l'extrême droite s'indigne de trop de liberté accordée à ces personnes fichées S. C'est un débat dont nous allons rendre compte dans ce journal avec Willy Moreau, ce qui amène à parler des lois d'exception que certains réclament. Le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas dans les colonnes du Monde refuse, je le cite, toute guantanamoïsation du droit français. Nous en parlerons avec Maxime Fayol et notre invité, l'ancien président de l'Observatoire international des prisons, Xavier Muesca. À l'étranger, la purge continue en Turquie, l'armée particulièrement visée puisque 45% de l'état-major a été limogé hier soir. Et puis à la fin de ce journal, Véronique Rebérot a lu pour nous le rapport de l'ANSES, rapport sur l'utilisation et l'impact des pesticides en France, l'un des pays européens qui en utilise le plus. On a donc appris tôt ce matin l'identité du deuxième auteur de l'attaque d'avant-hier à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen. Comme l'autre homme, ils ont tous les deux 19 ans, tous deux fichés S, le deuxième auteur depuis peu. Ce qui amène l'opposition néanmoins à faire pression sur le gouvernement en exigeant de ces personnes sous surveillance qu'elles soient purement et simplement internées. Propos du numéro 2 du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, ce matin dans les colonnes du Figaro. Cela fait un an que nous le réclamons sur tous les tons. Si le gouvernement nous avait écouté, l'égorgeur du père Hamel, écrit Laurent Wauquiez, n'aurait pas été en liberté. Bonjour Willy Moreau.
Bonjour.
La droite et l'extrême droite s'indignent. Expliquons comment ces personnes fichées S sont surveillées.
Eh bien, elles sont surveillées avec tous ces allées et venues, du simple contrôle routier au passage à l'aéroport. Tout est signalé, remonté auprès des services de renseignement. Le but, c'est bien de savoir si cette personne a des activités douteuses, car la fiche S est un outil de surveillance, pas un moyen de coercition. Contrairement à ce qu'affirme Laurent Wauquiez, une personne ne peut pas être arrêtée sous prétexte qu'elle est fichée S. Et puis ce classement regroupe des profils différents. Il peut concerner certes des personnes radicalisées, mais aussi des hooligans ou des opposants actifs au projet de construction de Notre-Dame-des-Landes. Et il n'est pas obligatoire que la personne ait commis des crimes ou des délits pour être fichée. Une fiche S peut être ouverte à votre encontre simplement parce que vous avez des contacts avec des islamistes radicaux, par exemple, quand bien même ils sont votre boulanger ou votre plombier. La surveillance n'est pas pour autant gage de sûreté. On l'a vu avec ces deux jeunes qui ont commis cet acte terroriste près de Rouen. Pour surveiller correctement un individu fiché S, il faudrait au moins 5 agents travaillant 24 heures sur 24. Or, fin 2015, Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, avançait le chiffre de 10 000 personnes fichées S en France. Il faudrait donc des moyens humains très importants.
Merci Willy Moreau. Je citais Laurent Wauquiez dans les colonnes du Figaro ce matin. L'élu ajoute aussi « J'assume de revendiquer des lois d'exception contre le terrorisme ». C'est bien un des débats qui agite la société française dans sa lutte contre le terrorisme, loi d'exception versus droit commun. On est déjà sous état d'urgence, qui est en soi une législation d'exception. Le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas défend de son côté dans les colonnes du Monde les armes actuelles du droit, le droit comme force dans une démocratie, et refuse ce qu'il appelle encore la tyrannie de l'arbitraire. Bonjour Maxime Fayol.
Bonjour.
L'actualité du jour va nourrir ce débat. Doit-on, peut-on réserver un traitement particulier à des détenus, eux aussi particuliers? C'est le cas par exemple du suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis, le seul survivant, Salah Abdeslam, détenu le plus surveillé de France. Un statut qui serait, selon son avocat, une atteinte à sa vie privée. Et le Conseil d'État va se prononcer dans quelques heures sur ses conditions de détention. Maxime, c'est vrai que le cadre juridique de sa détention est assez flou.
Alors il y a un cadre qui existe depuis décembre 2014. On peut utiliser la vidéosurveillance dans les prisons, mais seulement à deux conditions, un risque imminent de suicide et pour une durée qui n'est pas supérieure à 24 heures. Or, ce n'est pas du tout le cas de Salah Abdeslam, visionné 24 heures sur 24 depuis déjà 3 mois. C'est tout simplement du jamais vu en France. Alors, pour légaliser cette surveillance, le ministre de la Justice a pris un autre arrêté le 9 juin dernier pour permettre cette surveillance vidéo 24 heures sur 24. La Commission nationale informatique et liberté a d'ailleurs validé le dispositif, ce qui fait que ce système peut désormais désormais être étendu à d'autres détenus. Mais quand même, on sent que ces recours d'Abdeslam devant la justice inquiètent le garde des Sceaux. Il envisage même de prendre une loi si jamais la justice donne raison à Abdeslam. Et en toile de fond, c'est la compatibilité à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui se joue. La France porte-t-elle atteinte à la vie privée d'Abdeslam avec ce traitement? Pour y répondre, toute la question est de savoir si la mesure est proportionnée par rapport au but que les autorités françaises veulent atteindre, le maintenir en vie jusqu'à son procès. Existe-t-il une meilleure solution pour surveiller Abdeslam? C'est ces questions auxquelles le Conseil d'État doit répondre aujourd'hui.
Et on va en parler avec notre invité en ligne, Gabriel Mouesca. Bonjour.
Bonjour.
Ancien président de l'Observatoire international des prisons. Gabriel Mouesca, est-ce que cette vidéosurveillance 24 heures sur 24 de Salah Abdeslam est utile pour le maintenir en vie, puisque c'est finalement l'objectif des autorités?
C'est effectivement ce que la loi indique, même de façon avec un argument qui me semble un petit peu flou, c'est-à-dire qu'il est dit que cette loi permettra d'empêcher l'éventualité d'un risque suicidaire qui pourrait avoir un impact sur l'opinion publique. Hein. Donc c'est un argument déjà qui est, me semble-t-il, extrêmement discutable. Après, évidemment, les gens qui connaissent réellement la prison vous diront que quelqu'un qui veut se suicider, rien ne l'empêchera. Hein. Malheureusement, dans l'histoire de la prison, on a assez d'exemples, des dizaines, des centaines d'exemples de gens qui ont eu une originalité extrêmement importante pour mettre fin à leur jour. Donc, si ce monsieur souhaitait mettre fin à ses jours, je pense qu'il l'aurait fait depuis longtemps. Donc, par contre, il est aussi important à souligner, cela a été fait déjà par nombre de psychiatres et de spécialistes, cette mesure de surveillance, vidéosurveillance 24 heures sur 24, est extrêmement attentatoire à l'équilibre de l'individu, et il est fort à penser que dans le moyen terme, cette personne souffrira de déséquilibre profond lié à ces conditions de détention qui sont, comme vous l'avez souligné à votre présentation, rarissimes, pour ne pas dire un cas d'école dans le système carcéral français.
Et comment fait-on pour prendre en charge ce type de détenu sans appliquer une législation d'exception?
Écoutez, si déjà les lois en l'état, les lois normales étaient appliquées, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de personnel pour maintenir leur mission normalement auprès des personnes détenues, j'entends l'ensemble des personnes détenues, je pense que déjà il y aurait moins de difficultés dans les prisons. Et pour ce qui est de ces personnes détenues, je ne comprends pas pourquoi il y aurait des mesures supplémentaires, parce que la prison en soi est un outil suffisamment coercitif, suffisamment puissant au travers de ces outils déjà légaux pour maintenir la sécurité en tout lieu et en tout moment dans l'espace carcéral français.
Merci de nous avoir apporté votre éclairage, Xavier Mouesca, ancien président de l'Observatoire international des prisons. J'ajoute que les habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray se rassembleront ce soir à 18h au stade de la ville en hommage aux religieux. Ils souhaitaient une marche blanche qui leur a été refusée pour raison de sécurité. Idem à Nice, où un groupe d'habitants s'est vu refuser une marche blanche en mémoire du drame du 14 juillet, une marche qu'ils souhaitaient organiser ce dimanche. Cette information qui a surpris ce matin en Corse le mouvement nationaliste FLNC, qui avait annoncé en mai sa démilitarisation, sort du bois à la faveur de ces attaques terroristes à répétition. Il met en garde le gouvernement français. Si un drame se produisait chez nous, l'État aurait une part importante de responsabilité, car il connaît les salafistes en Corse. Le FLNC avertit aussi les islamistes les plus radicaux. Il explique même avoir donné aux autorités des détails sur un projet d'attaque. La correspondance de Jérôme Susini.
Le FLNC affirme dans un communiqué avoir permis de déjouer un attentat en projet dans un établissement public de Lille le mois passé. Aucun détail n'est donné sur la réalité du projet, ni la date, ni le lieu sont précisés, mais l'organisation clandestine indépendantiste n'aurait aucun intérêt, semble-t-il, à donner une telle information s'il était infondé. Et l'on comprend que l'attentat déjoué cité pourrait être celui fortement évoqué en juin dernier par des rumeurs d'attentats contre des discothèques de Lille. Information démentie par la préfecture à l'époque, seule confirmation par les autorités insulaires, le fait qu'un jeune Ajaccien, non musulman, avait été contacté par un prédicateur venu de Lyon et reparti, et que ce jeune homme, prenant peur, en aurait parlé à ses parents eux-mêmes ayant contacté alors un élu de l'Assemblée de Corse. L'organisation clandestine, qui dans ce communiqué qualifie de « prêcheurs de la mort » les imams radicaux, promet une riposte déterminée sans état d'âme, je cite, « en cas d'attentat contre le peuple corse ». Le FLNC s'adresse aussi aux musulmans de l'île, leur demandant de prendre position, de résister pour vaincre ensemble les fanatiques islamistes sanguinaires.
Jérôme Susini, notre confrère de France Bleu fréquente sa mort à l'Assemblée de Corse réunie ce matin, devait adopter une résolution demandant à l'État la fermeture des mosquées salafistes et l'expulsion de l'île des prédicateurs les plus radicaux. Après l'attentat de Nice, François Hollande lançait un appel aux Français qu'il souhaitait à rejoindre les rangs des différentes réserves des forces de sécurité dans le but de constituer ce qu'il appelait une garde nationale. Les trois parlementaires de tous bords qui réfléchissent à cette question ont été reçus ce matin au Palais de l'Élysée. Le lancement de cette garde nationale pourrait être rapide, ont-ils dit, pour un budget d'environ 100 millions d'euros. On en saura plus mercredi prochain au moment du Conseil de Défense et du Conseil des ministres. Et l'on parle d'un rendez-vous, d'une prise de parole présidentielle sur ce sujet à la rentrée. En Turquie, le grand ménage continue après le putsch raté d'il y a 15 jours, notamment dans l'armée, les trois armées. Alexandre Billette, vous êtes notre correspondant d'RFI à Istanbul. 149 généraux et amiraux limogés par le pouvoir du président turc Recep Tayyip Erdogan.
Oui, encore deux généraux qui ont démissionné ce matin au moment où justement le Conseil militaire suprême se réunit à Ankara sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan. C'est une refonte majeure qui se prépare dans les rangs de l'armée. Alors que l'état-major a été littéralement décapité, 45% des généraux ont été limogés hier soir par décret paru au journal officiel. Donc un grand ménage qui se prépare aujourd'hui et alors que le pouvoir de l'AKP a toujours été méfiant envers les militaires. D'ailleurs, très symboliquement, ce conseil militaire se réunit aujourd'hui dans les bureaux du Premier ministre et non pas dans les quartiers de l'armée comme l'usage le veut. Un grand ménage qui soulève aussi plusieurs questions. Est-ce que l'armée peut, dans cet état, assumer ses fonctions, notamment dans le sud-est où des opérations importantes contre le PKK étaient en cours ces derniers mois? Et dans quel état sont les services de renseignement, notamment en ce qui concerne l'état islamique et les terroristes, voire les kamikazes qui sont potentiellement sur le territoire turc? Bref, une période de flou au sein de l'armée, deux semaines après la tentative de putsch.
Alexandre Billette à Istanbul, la guerre en Syrie. La Russie annonce la mise en place dès aujourd'hui de couloirs humanitaires dans la partie d'Alep assiégée par les forces gouvernementales. Trois couloirs devraient donc permettre à la population de quitter enfin la ville. On évalue à 250 000 le nombre de civils pris au piège de ces combats et dans l'incapacité de se ravitailler. Un autre couloir devrait être ouvert dans le nord de cette grande ville du nord pour permettre le passage des combattants rebelles qui souhaiteraient rendre les armes. Pour refermer ce journal, on devrait en savoir plus sur l'impact des pesticides sur les travailleurs agricoles avec cette lecture, ce rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'environnement aussi, du travail, l'ANSES, remis tout à l'heure à la ministre Ségolène Royal. La France est l'un des pays européens qui utilise le plus les pesticides, écrit l'ANSES dans ce rapport, en plusieurs volumes, discrètement mis en ligne en tout début de semaine, après plusieurs reports. Bonjour Véronique Rebérot.
Bonjour.
L'ANSES a donc tardé à publier ses écrits, ce qui met en lumière la difficulté française à évaluer les risques des pesticides.
C'est exactement ce que pointe le volumineux rapport de l'ANSES, près de 1000 pages qui rassemble donc les connaissances disponibles sur l'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides. Avec ce constat, les risques encourus par cette population agricole, qui représente quand même près d'un million de personnes en France, sont insuffisamment documentés et pris en compte dans le processus même d'autorisation des pesticides. Dans ce rapport discrètement donc mis en ligne il y a 3 jours, l'ANSES regrette, je cite, que les données relatives aux expositions aux pesticides des travailleurs agricoles soient lacunaires et qu'aucune organisation en France ne soit en charge de les produire. L'Agence nationale de sécurité sanitaire fait un autre constat, encore plus inquiétant dans la foulée. Ces données lacunaires sont susceptibles d'être utilisées pour l'homologation des pesticides et elles sont pour certaines produites, lit-on dans le rapport, par des organismes non indépendants, c'est-à-dire ayant un intérêt à leur commercialisation. En résumé, armée, et on comprend l'embarras de l'ANSES, l'agence qui délivre depuis 2015 les autorisations de mise sur le marché des pesticides en France, s'appuie sur de rares données fournies par les entreprises elles-mêmes ou des personnes ayant intérêt à vendre le plus possible de pesticides. Ce constat soulève la question des conflits d'intérêts dans lesquels s'inscrivent les prestations à la fois de prévention, de conseil et de réduction de l'utilisation des pesticides en France, écrit l'ANSES. Pourtant, reconnaît l'agence, dans son rapport, de nombreuses études épidémiologiques ont mis en évidence une association entre les expositions aux pesticides et certaines pathologies développées par les agriculteurs. Depuis 2012, la maladie de Parkinson est reconnue comme maladie professionnelle chez les agriculteurs. Or, loin de baisser, malgré les plans Ecophyto 1 et Ecophyto 2, l'usage des pesticides en France est en hausse constante, plus 5% en moyenne chaque année.
Merci Véronique Rebérotte. Cette dernière minute, un peu plus d'une semaine après la mort d'un jeune homme en région parisienne, après son interpellation par la police à Beaumont-sur-Oise, la famille avait exigé une contre-autopsie. On vient d'en connaître le résultat. Aucune trace de violence, selon le procureur. On y reviendra dans notre prochain journal à 18h, édition réalisée avec François-Charles Domergue. Un tout petit mot de météo pour cet après-midi. Quelques ondées sur le nord-est du pays et sur les côtes de la Manche, une journée globalement plus nuageuse. Soleil généreux seulement sur le quart sud-est. Température maximale 20 à 22 au nord, 24 à 29 en descendant vers le sud, 29 à 34 sur les bords de la Méditerranée.